Bonjour, nous sommes ici à la Grotte de la Luire avec Thomas et Joséphine. Bonjour.
Bonjour Sarah, bienvenue sur le porche de la Grotte de la Luire.
Bonjour Sarah.
Thomas et Joséphine sont exploitants depuis pas très longtemps de la Grotte de la Luire. Ils vont nous expliquer comment ils ont organisé leur activité sur ce site.
Donc la visite, elle commence sous le porche de la Grotte de la Luire qui est connu pour son histoire depuis le Moyen-Âge, mais aussi pour une triste histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, on rentre dans la grotte, un peu comme les premiers explorateurs en 1896. Oscar de Combas, lui, il est rentré dans la grotte à la bougie. C'est ça ce qu'on propose à notre clientèle aussi, d'explorer la grotte comme eux à l'époque. Donc pendant la visite, on va découvrir quelques centaines de mètres à la bougie jusqu'au moment qu'on arrive au gouffre. Donc au bout de ces galeries, il y a un grand gouffre et c'est de là où l'eau remonte. Et après, on continue à découvrir quelques galeries basses. Donc en fait, on visite une grotte, mais c'est une grotte quand même un peu particulière.
Quelle est la caractéristique la plus originale de cette grotte?
La grotte de la Luire, c'est une remontée d'eau temporaire, ou ça s'appelle aussi une résurgence. Et surtout, c'est la plus grande dans le monde, avec une profondeur de 483 mètres. Donc ça veut dire entre deux crues, donc les remontées d'eau. Dans le réseau, il n'y a pas d'eau. Et l'eau vient d'où? Donc là, on a vu qu'il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de source qui coule en permanence. C'est l'eau de l'infiltration. Donc au-dessus de nous, on a le grand plateau, il y a l'eau qui s'infiltre. Ça remplit toutes les galeries. Après, ça remonte jusqu'ici. Un autre nom pour une remontée d'eau temporaire, c'est une source vauclusienne sur la fontaine de Vaucluse, qui est bien connue. C'est la deuxième plus grande remontée d'eau temporaire sur la planète, avec une profondeur de 300 mètres.
Ça reste encore une grande mystère. Il y a plusieurs théories de où s'arrive toute cette eau, mais on n'est pas sûr à 100%. Il y a déjà un tiers de tous les réseaux souterrains qui est découvert, ils pensent, mais il y a encore deux tiers à découvrir. Et l'eau, de temps en temps, elle vient de l'un côté, mais une autre année, ça vient de l'autre côté. S'ils ne sont pas vraiment sûrs à 100% si l'eau, elle vient vraiment du plateau du Vercors ou si elle vient d'ailleurs.
Aujourd'hui, le 2 mars, on se retrouve ici sous l'immense porche de la Grotte de la Luire. En fait, là, c'est le deuxième plus grand porche du Vercors. Et le plus grand porche, vous le connaissez peut-être, aussi un des plus grands porches d'Europe, c'est le porche de la grotte de...
Bourgnion.
Oui, bien, Bourgnion, qui se trouve à 20 km vol d'oiseau d'ici. Et pourquoi je parle de Bourgnion? Pourquoi on parle de Bourgnion? En fait, les deux porches, donc Bourgnion qui est à 20 km vol d'oiseau d'ici, les deux porches, ils communiquent entre eux par un réseau souterrain, ça s'appelle le réseau Luire-Bourgnion. Jusqu'à aujourd'hui, on a exploré 57 km de galeries souterrains. Au mois de juin, on était encore à 54 km. Donc là, pendant l'été, on a encore gagné 3 km. Donc ici, on se trouve à l'entrée du réseau souterrain le plus grand.
Est-ce que vous pourrez expliquer pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas les grottes comment on gagne des kilomètres sur un réseau souterrain? Comment ça se passe?
Donc, sur le site, il y a le groupe Spéléo de Valence, la GSV, qui s'occupe de l'exploration de cette cavité. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont déjà exploré 57 km. Au mois de juin, on était à 54 km. Donc là, pendant la sécheresse de l'été, ils ont exploré encore 3 km. Donc, ils descendent, on rappelle, dans le réseau. Après, ils plongent plusieurs siphons souterrains. Sur les visites qu'on propose à notre clientèle, on visite à peu près quelques centaines de mètres du réseau parce qu'on ne peut pas faire des kilomètres. Ça ne sera pas possible pendant une visite d'environ une heure. Déjà, pour aller au point le plus profond dans le réseau, 23 heures aller-retour. Le point le plus profond, il se retrouve à 483 mètres de profondeur.
Donc, on se trouve en ce moment sous les porches de la Luire. On peut voir la Luire. À notre droite, on peut déjà commencer à plonger dans cette légende.
Oui, donc en face de nous, on voit un lit de rivière. Mais il n'y a pas d'eau, c'est un peu bizarre. Surtout là, pendant l'hiver, qu'il n'y a pas d'eau. Normalement, tous les cours d'eau sont bien remplis d'eau. Mais là, non, pendant l'hiver, il n'y a rien. En fait, dans le Moyen-Âge, trois fois par an, une énorme rivière, un torrent furieux, sortait de la grotte, inondait toute la vallée. Les champs détruits, les maisons inondées, rien qui restait debout. Là, en fait, les villageois, ils disaient, dans le Moyen-Âge, que dans cette grotte, qu'il y a une vivre qui vit là-dedans. C'est quoi une vivre? Une vivre, c'est une dame en corps serpent, des ailes de chauve-souris, qui vit dans les zones obscures, dans les eaux douces. Mais quand elle se met en colère, elle crache de l'eau. Donc ben, la vivre en celte, donc c'est une ancienne langue du nord, ben, c'est la luire. Donc ça, le nom, grotte de la luire, c'est la grotte de la vivre, la grotte du démon. Et dans le Moyen-Âge, ben, y a un sculpteur qui est venu, un villageois, qui a sculpté la vivre sur la paroi. Et même aujourd'hui, 500 ans plus tard, on peut voir cette sculpture sur la paroi. Mais en fait, en 1974, il y a un sculpteur italien qui est venu sur le site. Il a transformé la vivre en résistant, donc pour rendre hommage aux blessés de l'hôpital. Donc aujourd'hui, elle a des jambes et elle a perdu ses ailes. Donc,
vous voulez bien nous préciser quel hôpital pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette histoire?
Ben en fait, le Porche, il a beaucoup d'histoires, mais il est bien connu pour son hôpital qui était installé ici. Un hôpital improvisé, clandestin. Militaire, donc c'est l'hôpital des maquisards du Vercors. Donc ben, c'était en juillet 1944. Hein. Donc les nazis, ils avaient encerclé le Vercors et à Saint-Martin, ben, les maquisards, ils avaient un hôpital militaire. Mais dans la matinée, le docteur, il a vu les planeurs au-dessus de l'hôpital. Et ce moment, ben, il a eu peur, il a décidé d'évacuer l'hôpital. Ben, ils sont réfugiés sous le porche de la grotte à l'huile. Ils pensaient d'avoir trouvé un endroit sur le porche. En fait, ils sont restés là 6 jours à plus de 150 personnes. Et le 6e jour, bah, la même chose. Les planeurs, les avions des nazis, juste au-dessus du porche de la grotte de la Luire. Bah, une deuxième fois, bah, le docteur il a décidé d'évacuer l'hôpital. Donc, beaucoup de gens étaient partis dans les forêts, dans les vieilles granges. Et une trentaine de personnes, par exemple, ont grimpé sur la paroi à droite du porche. Ils sont installés dans une entrée de grotte juste au-dessus. Bah, en fait, eux, ils ont survécu le massacre, le drame de la Luire. Parce qu'à 16h l'après-midi, ben, les nazis, les soldats, ils sont arrivés par là. Hein. Juste derrière vous, ben, y a une falaise qui fait 20 mètres. Ils ont grimpé dessus. Une vingtaine de soldats sont arrivés ici. Ils tirent dans l'air. Ils étaient prêts à fusiller tout le monde qui était encore sur le porche. Mais ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ben, entre les blessés graves, 4 nazis polonais, encore en uniforme. Et c'est eux qui ont crié en allemand, ben, « tirez pas, c'est un hôpital, ne tirez pas !» Ils n'ont pas tiré de suite. Mais quand même, ils ont ramené tout le monde d'ici jusqu'au parking. Et au bout du parc, ils ont fusillé 11 personnes. Après, au Rousset, encore 8 personnes fusillées. Les 2 docteurs le prêtent son fusil à Grenoble. Et à la fin, il a encore ramené, déporté 7 infirmières en Allemagne.
Quand on rentre dans la grotte, on fait comme les premiers explorateurs. Si, à cette époque-là, il n'y avait pas encore la vraie lumière, ils n'avaient que les bougies, et nous, on va faire pareil. Si, tout le monde va fabriquer leurs propres bougies, et on rentre dans le noir, dans la grotte, juste avec la lumière des bougies.
À la recherche de cet phénomène naturel, ou la vivre.
Pendant l'hiver, on fait aussi les nocturnes en flambeau le soir, quand la nuit, elle tombe. Et ça, on fait la même visite à la lanterne dans la grotte, mais du parking jusqu'à la grotte, on vient avec les flambeaux.
Est-ce que c'est plusieurs fois par semaine?
Pendant les vacances d'hiver, c'est le samedi, lundi et mercredi soir.
Et hors période des vacances, parce que là, les vacances sont terminées dans une semaine?
C'est que pendant les vacances, on fait les visites en nocturne. Okay. Et après, les visites à la lanterne, c'est hors vacances, c'est plutôt les week-ends et les mercredis. Pendant l'été, on est ouvert 7 sur 7. Mais pour être sûr, c'est mieux de regarder notre site, grottelaluire.com. C'est notre site. Et là, vous trouvez, il est très up-to-date et vous trouvez tous les horaires, tous les tarifs.
Quels sont les tarifs pour accéder?
Les tarifs pour les adultes, une visite à la lanterne, c'est 10 euros. Pour les enfants jusqu'à 14 ans, c'est 7,50 euros. Les enfants en dessous de 4 ans, c'est gratuit. Et après, on a des tarifs aussi pour les étudiants et les chercheurs d'emploi qui est à 8,50 €. La nocturne au flambeau, c'est 12 € pour les adultes et 9 € pour les enfants jusqu'à 10 ans.
Il y a aussi des visites plus spéléologiques ou ça, il faut faire appel à des clubs de spéléologie pour ça?
Si vous voulez aller à la découverte sous terre chez nous, il faut nous contacter et nous, on travaille ensemble avec un spéléologue diplômé. Voilà, et ça, c'est tout sur réservation.
Donc, on quitte l'entrée du parche pour aller pénétrer un peu plus loin dans cette grotte.
D'où ça vient la grande rivière qui sort de temps en temps de la grotte. Et on se met tous en silence et on va écouter le bruit de l'eau.
Et on a aussi des lumières qui entre-temps se sont allumées.
Mais au milieu de la visite, on commence à allumer les lumières petit à petit.
Ben pendant la visite, c'est important qu'on joue avec les émotions des visiteurs. Donc on rentre dans la grotte à la lanterne et fur et à mesure, on met l'éclairage.
Et vous essayez aussi de faire revivre aux visiteurs et visiteuses l'émotion des premiers explorateurs de cette grotte?
Oui, nous sommes rentrés dans la grotte à la recherche de cette énorme rivière où le monstre qui vit là-dedans. Donc pendant le trajet, on découvre plusieurs endroits. Par exemple, là, les gouttes d'eau que vous avez entendues. Mais là, vous avez vu, il y a un petit bassin, quelques gouttes, mais c'est pas encore cette énorme rivière. Donc on va continuer le chemin à la recherche de cette rivière. On se retrouve ici sur la passerelle, le pont au-dessus du gouffre. C'est un gouffre qui fait 31 mètres. Et le gouffre où on se retrouve, c'est l'entrée du réseau de la Luire. Ou on peut dire aussi le trop-plein du réseau de la Luire. Parce que quand l'eau remonte, quand l'eau sort de la grotte une fois par an, trois fois par an, ça remonte par ici. Ça s'appelle une résurgence. Si on voit l'eau en bas du puits, ça peut remonter à 10 mètres par minute.
Et donc, dans cette salle très grande où nous nous trouvons, nous ne voyons pas de stalactites et c'est lié à ces remontées d'eau?
Il y a très peu, il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, les remontées d'eau, c'est un réseau actif qu'on visite. Ce n'est pas une grotte fossile où la rivière a creusé, qu'elle est en contrebas maintenant. Dans les réseaux actifs, donc il y a encore l'eau qui est très active. Donc quand l'eau remonte, ça ramène, ça casse tout sur son chemin. Donc là, il y a quelques stalactites, mais il y a une deuxième raison pourquoi elles ne sont pas trop longues. En fait, c'est le courant d'air. Ça fait sécher la goutte d'eau dans la stalactite trop vite. Pour ça, une stalactite ici dans le réseau, ça pousse 1 cm par siècle. Mais là, il y a certains au-dessus de vous. Par exemple, la plus longue, elle a 40 cm. Donc 40 cm, 1 cm par siècle, ça veut dire qu'elle a 4000 ans. Comme ça, on sait que l'eau n'a pas touché le plafond depuis 4000 ans.
Et c'est quand la dernière remontée d'eau récemment?
C'était le 31 décembre 2021. C'était un des plus grands crus déjà connus pour les gens qui sont encore vivants. Voilà, et ça a bien inondé toute la vallée de Saint-Agnan. Ça a fait bouger beaucoup de grands blocs de pierre.
Et cette grotte, elle est aussi habitée par des animaux.
Oui, mais très peu. Dans les réseaux actifs, vous avez compris, quand l'eau remonte, c'est très compliqué pour des animaux survivre dans les réseaux comme ça. Mais dans le réseau souterrain, dans les lacs souterrains, il y a une petite crevette qui vit là-dedans, qui est unique du lieu, qui ne fait même pas un centimètre, qui est complètement transparent. Et bien sûr, il y a plusieurs colonies des chauves-souris, ça s'appelle une pipistrelle. C'est une chauve-souris qui ne fait même pas 4 centimètres.
Et les auditeurs ne peuvent pas les voir, mais il y en a plusieurs sur nos têtes à ces moments. Nous avons quitté les points d'observation du gouffre, c'est-à-dire les ponts sur lesquels nous nous sommes posés tout à l'heure, pour arriver où ?
Eh ben maintenant, on se trouve sur le plateau dans la salle d'Oscar de Combaz. En fait, cette salle, c'est aussi la plus grande salle dans le réseau. Donc, on a le gouffre qui fait 100 mètres. Cette salle fait 101 mètres.
Au plafond, on va dire.
Au plafond, oui. Ouais. Avec la cheminée remontante. Donc, en fait, jusqu'au dôme, on voit 60 mètres. Et avec la cheminée remontante jusqu'à 100 mètres et un peu plus. Dans cette salle, on a prévu son et lumière. Donc, il y a un spectacle pendant 5 minutes qui explique un peu l'histoire, comment cette salle est formée avec un spectacle de lumière, une explosion de lumière. Le son et lumière expliquent très très bien cet phénomène naturel hydrologique unique au monde et surtout la puissance de la nature, la puissance d'eau, ce qui se passe dans la grotte. Parce que cette grotte, elle est formée par cette remontée temporaire. C'est une de celles grottes dans le monde qui est formée par une puissance d'eau comme ici. Hein. Ici, on se trouve, ça s'appelle les Galeries Basses, la Grotte de la Luire. Donc, on peut dire que ça fait un lieu un peu comme les caves, avec des petites galeries. Et en fait, ça sont des conduits d'eau, des tubes, on peut le dire. Donc, quand l'eau remonte, c'est rempli d'eau. C'est là où l'eau se met en puissance. Et surtout, quand vous regardez au-dessus de vous, vous voyez bien toutes ces cheminées. Là, on voit une cheminée au-dessus de nous qui fait à peu près 2 mètres. Mais ça peut monter facilement 400 mètres. Hein. Ça monte... Jusqu'en haut du plateau de Vémois. Et c'est comme ça que l'eau s'infiltre par tous ces cheminées. Ça montre bien l'intérieur du Vercors, que c'est une vraie gruyère. Maintenant, on se trouve ici dans une petite salle. Ça s'appelle la salle de l'Ours des Cavernes. Et pourquoi ça s'appelle la salle de l'Ours des Cavernes? Il n'est plus là. Hein. Mais il y a 25 000 ans, 50 000 ans, des Ours des Cavernes vivaient là ou bien au-dessus du niveau zéro. Parce que les archéologues ont trouvé des traces de griffes de l'Ours des Cavernes un peu plus loin dans la paroi.
On est devant un bloc de pierre.
Ah c'est vrai, c'est juste un simple bloc qu'on a vu déjà des centaines dans le lit de la rivière. Mais lui, ici, il s'est bloqué entre les parois. Donc là, ça montre bien la puissance de l'eau dans ses conduites où on se retrouve. Parce que le bloc qui est là, qui fait peut-être un tonne, il y a 10 ans, il n'était pas là. Donc c'est l'eau qui l'a ramené et bloqué ici entre les parois. Donc là, aujourd'hui, c'est très important de ne pas le toucher. Hein. Parce que quand il tombe, il y a tout qui tombe. Il tient la grotte aujourd'hui. Hein.
Il fait quel volume, juste pour les personnes qui ne les voient pas, pour comprendre à quel point l'eau peut être forte ici?
On peut dire 1 mètre cube.
Vous êtes tous les bienvenus à venir découvrir avec nous les mystères de la grotte de la Luire.